J'aimerais vous présenter nos orateurs, Pasteur Juha, qui vient d'Helsinki en Finlande. Merci de l'accueillir. Pasteur Juha. C'est incroyable d'être encore ici. Ça a été vraiment un moment tellement riche, avec des portions tellement extraordinaires. Je me sens tellement édifiée par les messages d'hier soir. C'était incroyable. On va prier ensemble si vous voulez bien. Seigneur, nous te demandons de recevoir ces paroles, parce qu'elles viennent de ton cœur jusqu'à notre cœur. Et Père, on te demande de bénir ton peuple. Merci parce que tu nous as rachetés et nous t'appartenons. Donc Seigneur, s'il te plaît, nous te demandons de nous parler, de nous parler à notre cœur, afin que nous puissions être édifiés. Et nous prions selon en ton nom. Amen. Nous allons regarder ensemble dans le livre des Proverbes, au chapitre 21, Proverbe 21. Où il est dit que le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. C'est incroyable. C'est Dieu qui nous a fait de nous comme des rois. Il a fait de nous des rois. Et il peut tourner notre cœur partout où il a envie, comme un courant d'eau. En Finlande, au printemps, lors de la fonte des neiges, on voit ces mares d'eau un peu partout. Et quand j'étais tout petit, on s'amusait à détourner les cours d'eau avec quelques bâtons, ou juste avec nos pieds, on créait une petite digue et puis on dirigeait les courants d'eau là où on voulait. Mais par contre, on ne peut pas diriger l'eau. Elle ne peut couler que d'amont, elle peut couler que du haut vers le bas. Mais on ne peut pas faire monter l'eau en haut de la montagne. C'est pas possible. Mais ce qui est magnifique avec le Seigneur, il tourne notre cœur, il incline notre cœur. Nous sommes ses rois. Et je me demandais, mais quel genre, qui est un roi? Qu'est-ce que c'est qu'un roi? C'est une personne qui n'est pas déloyale. C'est un roi qui n'obéit pas à ses ennemis. Il est soumis au Seigneur. Il est un roi, il règne dans la vie avec Christ. En Romains 5, 17. Et il n'est pas ébranlé par les attaques de l'ennemi. Et là, l'eau peut aller dans toutes les directions qu'il veut. Dieu a établi comme règle que l'eau ne puisse pas remonter les montagnes. C'est une règle de Dieu, quelque chose que nous ne pouvons pas changer. En tant que roi et reine, nous recevons l'eau, nous recevons le courant qui vient d'en haut. Et comme Jésus l'a dit en Jean 7, Quiconque a soif, venez à moi et buvez. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, nous avons ces magnifiques paroles de Jésus-Christ alors qu'il s'adresse à ses disciples. Au chapitre 15, au verset 15 aussi. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami. Et je pensais, c'est une promotion pour les disciples. Ce ne sont plus des serviteurs. Jésus ne va plus les appeler serviteurs, mais amis. Jésus-Christ était en train d'établir ses disciples en tant que roi avec lui. Il a commencé à incliner leur cœur dans la bonne direction. Parce qu'un serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais un ami le sait, lui. Nous sommes des amis du roi, et nous sommes des rois. Et nous comprenons de mieux en mieux lorsqu'il nous appelle à être des rois, à ne pas nous soumettre à l'ennemi ni à ce monde. Et il incline notre cœur. C'est pas une obéissance forcée. Nous obéissons parce que nous l'aimons et que nous sommes ses amis. Nous avons les mêmes intérêts que lui. Son intérêt, c'est de gagner des âmes. Son intérêt, c'est d'édifier et d'édifier son royaume. Nous avons les mêmes intérêts que lui. Édifier, construire son royaume. La direction est quelque chose d'essentiel. Et la vie nous vient de lui. Les pharisiens, quelque part, ne comprenaient pas ce principe. Ils pensaient que eux, ils étaient serviteurs de Dieu. Et que leurs efforts pour servir Dieu étaient importants. Et Dieu dit, mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est le courant de vie de Dieu vers nous qui fait la différence. Et je suis sûr que vous vous souvenez des histoires en Luc 18 où Jésus est en train de parler de ses paraboles à propos de deux hommes qui priaient. D'un côté, il y avait le pharisien qui priait et qui était tellement content de lui-même, il était en train d'en faire tout un plat. Je fais ceci, je fais cela. C'est comme s'il essayait de faire remonter l'eau vers la montagne. Et bien sûr que c'est impossible. Mais de l'autre côté, il y avait ce collecteur de taxes, d'impôts qui était tellement humble, qui disait, Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Et la phrase de Jésus est magnifique parce qu'il dit, à votre avis, qui a été justifié alors qu'il est rentré chez lui? Le courant de vie était vers lui, en train de traverser son cœur. Il a reçu la vie. Et je suis sûr, l'histoire ne nous le dit pas, mais je suis sûr aussi, comme Jésus l'a dit en Jean 7, nous sommes devenus des fontaines de cette vie qui vient d'en haut. Et je suis sûr que ce collecteur d'impôts, lorsqu'il a compris par la foi qu'il était juste, je suis sûr que lui aussi était un déversoir de cette vie de Dieu à tous ceux qui étaient autour de lui et qu'il a béni les gens autour de lui. En Israël, je sais qu'il y a un désert. Mais là où il y avait le désert, ils l'ont irrigué. Maintenant, c'est un jardin. Je pense que Dieu fait la même chose avec nous. Il dirige le courant d'eau vive dans notre cœur. Il incline notre cœur. Et la vie continue encore et encore. Et ça nous amène la vie. Ça nous fait porter du fruit. Et aussi, lorsque le Seigneur dirige notre vie et nous allons dans différentes parties du monde, ça édifie notre cœur. Et notre désert est transformé en jardin. Et nous portons du fruit. C'est son œuvre en nous. Et en fait, tout est pour lui, tout est pour sa gloire. En Ésaïe, au chapitre 32, il est dit que le désert portera du fruit. Notre cœur, au départ, est comme un désert. Mais lorsque Dieu incline et déverse sa vie dans notre cœur devient un jardin fertile. Et Dieu incline notre cœur. Lorsqu'on a compris qu'on n'appartenait plus à ce monde et qu'on n'appartenait pas à l'ennemi, Dieu incline notre cœur. Et nous sommes ses amis. Nous sommes des amis du roi et des rois amis du roi. Seigneur Jésus, nous voulons simplement tellement te remercier parce que tu as déversé ta vie dans notre cœur et maintenant tu inclines notre cœur par tes rivières d'eau vive. Et on veut te remercier. Merci Seigneur Jésus. En ton nom. Amen.
Okay.
D'Inde. Après la Finlande, nous passons à l'Inde. Pasteur Coelho. Ça a été vraiment c'est une conférence incroyable, n'est-ce pas? On voit l'adoration, l'esprit, les messages, la vie, la liberté. Vraiment. Donc, nous avons toutes les salutations de l'église en Bangalore. Est-ce que Michelle est ici? Elle a été là avec nous pendant quelques mois. Est-ce que Daniel de Finlande est là? Et Kobe aussi, ça fait 3 ans qu'elle est avec nous. Et la voilà. Notre église projette à 4h ou 5h du matin les sessions, et donc il y en a certains qui regardent, donc je les salue bien. Donc, dans le livre des Proverbes, au chapitre 10, il nous est dit que l'amour couvre une multitude de péchés. Et la chanson qui a été chantée nous parle de cela. L'amour couvre une multitude de péchés. Et la haine regarde ce que l'amour a fait et essaie de combattre cela. En Osée 11, Dieu est en train de traiter une situation avec Israël. Dans le livre de la Genèse, on voit que Manassé était le premier-né, mais que Jacob a béni en premier lieu Éphraïm. Et Joseph a dit non, tu imposes tes mains sur pas le bon garçon. Alors que Jacob, lui, avait fait la chose pour tromper son père, là, en fait, ce que Jacob était en train de faire, c'était exprimer la grâce. Symboliquement, on voit que même à ce moment-là, même s'il ne méritait pas la divine faveur de Dieu, Dieu allait le bénir par grâce uniquement et pas à cause de lui ni de son caractère. Et il est intéressant de voir là, quand on lit, j'ai guidé Éphraïm, je l'ai nourri. Donc en Osée 11, verset 8, il y a une phrase qui est très intéressante. Et c'est comme s'il y avait un combat quelque part dans le cœur de Dieu. Éphraïm, comment est-ce que je pourrais t'abandonner? Ensuite, il dit quelque chose. Mon cœur s'agite au-dedans de moi, et c'est Dieu qui parle. Mon cœur s'agite au-dedans de moi. Toutes mes compassions sont émues. C'est très intéressant. Mon cœur s'agite au-dedans de moi. En l'intérieur de Dieu, il y a un combat. Et ça, bien sûr, c'est quelque chose pour nous montrer que Dieu peut avoir ce genre de choses. C'est un anthropomorphisme. Bien sûr, nous avons la conscience du péché. Bien sûr, on a entendu, dans certaines nations, il y a la honte, il y a la culpabilité, il y a la conscience du péché. Mais cette conscience a besoin de la conscience de Dieu. Et Dieu nous a créés afin d'avoir communion avec ce Dieu qui se révèle à nous, à une nation qui est perdue et pécheresse. Dieu, de la condamnation du péché et de la conscience du péché, nous amène à la conscience de lui et de sa grâce. Et on le voit dans l'Évangile, c'est magnifique cet amour, cette relation d'amour. Et là, nous voyons clairement que Dieu doit faire quelque chose à propos du péché. On voit en Lévitique 16, on parle de l'expiation du péché. Le péché est une entière attaque et violation de la nature de Dieu. Et en Proverbe 10 et en Osée 11, on voit que Dieu a vraiment le pécheur à cœur, parce qu'il l'a créé à sa propre image. Mais il doit, Dieu, quand il traite le pécheur, il traite le péché devant lui. Parce que dans son caractère et sa nature, Dieu traite le péché. Et en chapitre 10, 16 du livre des Lévitiques, et au verset 15, il y a deux sacrifices. Et il y a la chèvre qui doit être égorgée. On verse son sang et on l'amène à l'intérieur du tabernacle. Et il n'est nulle part dit qu'on doit mettre nos mains sur cette chèvre. Et c'était symbolique que Dieu doit faire quelque chose en premier à propos du péché. Oui, je suis un pécheur, mais d'abord Dieu traite le péché. Et quand il le fait, ça doit être pour la gloire de sa nature. Tout ce que Dieu fait, c'est pour la gloire de sa nature. Autrement, il ne pourra pas faire autre chose. Et il ne pourra pas avoir la gloire dans tout ce qu'il fait. Ce ne sera pas possible. Parce que tout ce que Dieu fait, c'est pour la gloire de sa nature. Comment Dieu peut prendre le péché et le transformer, que le fait d'enlever les péchés lui donne la gloire? Mais c'est ce qu'il a fait à la croix. Lorsque le sang est versé, Dieu a entièrement traité tout ce qui était contraire à sa nature. Une fois qu'il a pris ce péché, après avoir fait l'aspersion du sang de Jésus-Christ, et là, maintenant que j'ai traité tout ce qui est contraire à ma nature, il n'y a plus personne de coupable qui peut se dresser contre moi. Et le deuxième sacrifice en Lévitique 16, 20, 20 et 21, c'est là où il y a le principe de la substitution. Et Dieu est complètement satisfait grâce au sacrifice de son propre Fils. Et maintenant, le substitut veut venir, et la personne, le coupable, peut venir uniquement parce qu'il y a eu un substitut pour lui. Et il peut recevoir le don du sacrifice librement. Dans le livre aux Hébreux, au chapitre 9, 26, il est venu pour mettre de côté le péché. Ensuite, il a racheté le péché de beaucoup. Celui qui a enlevé le péché des pécheurs, et ensuite le pécheur peut rentrer dans la présence afin de recevoir la miséricorde, parce que la miséricorde se réjouit contre le jugement. Elle triomphe du jugement. Nous avons un message. Nous avons l'amour. L'amour qui couvre une multitude de péchés, qui est parfait en Proverbe 10. Mais la haine essaie de nous grignoter. Et nous sommes dans un monde qui est démoniaque. Et il y a une attaque contre l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. Et il y a aussi une attaque contre le corps de Christ. Parce que maintenant, le pécheur comprend l'Évangile. Et où est-ce qu'il peut trouver l'expression d'avoir la vie ? Uniquement dans le corps de Christ. Et c'est là où il y a une démonstration de la vie. Et c'est la plénitude du corps de Christ. Dans le corps de Christ, le corps de Christ expérimente les bénédictions. Celui qui cache l'erreur couvre une multitude de faux. Et Dieu considère le péché au travers de l'œuvre accomplie de Christ. Donc c'est vraiment une révolution pour nous. Et de fait de continuer à écouter, avoir nos esprits remplis des pensées de Dieu. 1 Pierre 4 dit: ayez cet amour fervent les uns pour les autres, un amour brûlant. Vous savez, quand on est en Inde et qu'on fait, si on ne boit pas l'eau, on peut avoir plein de maladies. Donc, en fait, lorsqu'on est dans un amour bouillant, rien ne peut survivre, aucune maladie, aucune attaque ne peut résister à un amour fervent et brûlant. Nous standons dans la foi ou la grâce parce que Dieu nous donne son amour et parce que l'œuvre est accomplie. Comme l'a dit le pasteur hier, nous sommes couverts. Et nous expérimentons cette vie incroyable. Amen. Vous allez vous lever si vous voulez bien. Nous allons chanter une chanson. Et ensuite, et donc, Pasteur Morrison, même si c'est un fan des Red Sox. J'aimerais... Non, le président de la SPA, qui est en fait en anglais, l'Association des pasteurs tout petits, mais ça ne marche pas, c'est un mauvais jeu de mots, mais en fait, ça fait SPA. Donc c'est pasteur Jim Morrison. Vous avez entendu parler de ça. Sa femme était au début, au premier rang. Et elle voit qu'il y a un problème. Elle veut lui envoyer un message. Et puis elle écrit sur un bout de papier, remonte le... Elle parlait de sa braguette. Et il a détourné ses yeux et il continuait à prêcher. Et finalement, elle lui montre encore faire peu. Et peu m'importe, je ne la fermerai pas. Je vais prêcher mon message. En fait, il pensait qu'elle lui demandait de fermer sa bouche alors qu'elle lui demandait juste de fermer sa braguette. Merci parce que vous m'avez pardonné pour cette pauvre blague. Donc je viens de recevoir un appel de Pasteur Duke. La grâce et l'amour. Je recherchais quelque chose d'autre, mais peu importe. On va regarder dans le livre des Proverbes, si vous voulez bien. En Proverbe, Proverbe chapitre 16, au verset 1. Ce sont vraiment des partages incroyables qu'on vient d'entendre. Ce matin, vraiment. Et toute cette semaine. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme. Mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Et je pensais à l'Institut biblique. quel projet c'est pour la vie d'un croyant. L'assemblée locale est fidèle, d'être fidèle, c'est un projet. En Hébreux 10, 25, de ne pas abandonner notre assemblée, être sûr qu'on est sous l'enseignement d'un pasteur. Non seulement vous avez un pasteur enseignant, mais en plus vous vous placez sous son enseignement. Le christianisme aujourd'hui ne veut plus parler d'autorité spirituelle, mais la Bible est très claire sur la position du pasteur enseignant dans l'assemblée locale, en 1 Timothée 5, 12, 1 Thessaloniciens 5, 12 et Hébreux 13, 7. Nous devons honorer les pasteurs, les estimer, et ceux qui travaillent dans la doctrine parmi eux. C'était tellement essentiel d'être sous une couverture. Samson a perdu sa couverture. Il a été tondu. Et cette couverture était sa force. Et nous remercions Dieu pour la conversion que nous avons dans l'assemblée locale. La filiation entre chaque assemblée, c'est aussi une couverture. Votre pasteur, vos pasteurs, est une couverture et lui-même doit se trouver sous une couverture, telle que nous avons dans ce ministère. Merci Seigneur pour la couverture de la parole de Dieu. Les projets, le mot ici qui est donné, ça dépend entièrement de nous, de savoir si nous voulons, oui ou non, nous préparer ou faire un projet. Vous vous souvenez quand on était petit à l'école, lorsque le professeur arrive en disant « Ah, tout d'un coup, examen surprise !» Et c'était horrible sentiment, parce que vous saviez que vous n'étiez pas préparé. Elle donnait ces tests surprises pour savoir ce que vous connaissez exactement, pas pour ce que vous prétendez savoir. Vous savez ce que ça veut dire, prétendre savoir. Et quand on fait du bourrage de crâne, suffisamment pour pouvoir avoir l'examen, c'est du bachotage. Mais en fait, le test surprise révèle vraiment ce qu'on sait. Et le Seigneur aime amener des petites épreuves comme ça dans notre vie. Des petits tests surprises auxquels on ne s'attend pas. Afin que nous voyons vraiment où nous en sommes dans notre préparation. Le projet, les préparations, le projet dépend de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. C'est super. Parce que quand vient le test surprise, arrive, nous avons la bonne réponse. On ne s'attendait pas à ce test, on ne savait pas quelles seraient les questions qui nous seront posées. Et nous n'avons pas étudié les questions. Nous avons étudié simplement, nous sommes attelés à être préparés devant Dieu, à étudier Dieu. Dr. Stevens nous disait toujours, lorsqu'il s'agissait de s'adresser au pasteur, il disait, préparez votre cœur devant Dieu, préparez votre corps. Samuel, en 1 Samuel 6, en parle au verset 3. Préparez votre cœur pour le Seigneur, mettez-le à part. C'est incroyable d'obtenir une réponse du Seigneur. Et je ne parle pas d'une réponse à la prière, c'est une réponse aux questions de la vie. Combien d'entre vous pensez-vous que nous demandons? Les gens viennent nous voir et nous posent des centaines de questions. Chaque situation a ses propres questions. Chaque relation que nous avons comporte des questions. Chaque difficulté que nous traversons apporte son lot de questions. Le Seigneur aussi nous pose des questions. Les gens nous posent des questions. Ceux qui ne croient pas nous posent des questions. Mais si notre cœur est préparé, alors nous serons toujours prêts à avoir la réponse qui vient de l'Éternel dans notre bouche. Si je n'étais pas préparé, Il faudrait que je triche et que je regarde à celui qui a un gros cerveau à côté de moi et que je pompe tout sur lui. Et si on regarde, il y a un deuxième proverbe qui parle de ça, c'est au chapitre 15 et au verset 23. On éprouve de la joie à donner une réponse de sa bouche. Donc il y a premièrement le projet ou la préparation. Ensuite, il y a le test surprise. Et finalement, la réponse qui vient de la bouche de l'Éternel. Et ensuite, on éprouve de la joie. Lorsque Pasteur Shibeli était à Marlboro, il en parlait aujourd'hui, quand en 1 Samuel 17, David est apparu au verset 29, je crois. Dans la version King James, ça veut dire, il a dit, il n'y a-t-il pas quelque chose? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, un combat pour Dieu? Est-ce qu'il n'y a pas une parole de l'Éternel? Est-ce qu'on n'a pas une réponse à faire à ce Philistin? Est-ce qu'on n'a pas une cause, une réponse à ce test surprise qui s'appelle Goliath? Son cœur était préparé à David. Il était prêt à recevoir une parole du Seigneur. La réponse était là. Elle venait de l'Éternel, elle était dans sa bouche. Et ensuite, on voit la joie. Parce que nous avons compris qu'il y a quelque chose en nous. Qui peut répondre aux questions qu'on nous pose? Quelque chose qui correspond à notre test, à notre épreuve, mais non seulement quelque chose d'égal, mais quelque chose en plus qui surpasse toute chose. Il y a une réponse de Dieu en nous qui est fraîche, qui est nouvelle, et Dieu nous l'a donnée personnellement à nous pour affronter la situation que nous traversons. Voilà ce qui est tellement beau à propos de ça. Et la dernière partie du verset, une parole dite en saison est tellement agréable. Combien est agréable une parole dite à propos? La parole dite à propos vient du pupitre, ça c'est encore mieux. Très souvent, ça vient du pupitre. Voilà pourquoi nous devons continuer à nous rassembler, parce qu'il y aura une parole dite à propos pour nous, cette soirée-là ou cette matinée-là. Cette parole va venir à propos, et peut-être qu'on ne sera pas là pour l'écouter, et ce serait trop dommage. Une parole dite à propos, combien c'est bon et agréable. À cause de cette parole qui vient à propos, nous avons la parole qui peut répondre aux questions qui viennent et qui croisent notre chemin. Premièrement, avoir un cœur préparé qui fait des projets et juste d'être assis comme vous le faites dans une assemblée locale, d'écouter la parole de Dieu dite à propos. Ensuite, il y a le test et ensuite la question, et tout ça, ça vient de Dieu. Ça ne vient pas nécessairement ce que nous entendons dans le culte, parce qu'une parole dite à propos dans l'Église, mais le Seigneur va la rendre encore plus personnelle, parce qu'il connaît les épreuves que nous traversons, et ça va découler du message que nous avons entendu dans l'Assemblée. Peut-être que ce n'est pas dans nos notes, mais c'est comme si on amorçait une pompe. L'eau a été amorcée par le pasteur et elle commence à jaillir en nous. Ce n'est pas exactement la parole qu'il a dite, mais c'est la parole que Dieu nous donne dans notre cœur qui a déjà été préparée par la parole que nous avons reçue du pupitre. Et j'aime ça. Ça n'a rien à voir avec un croyant. Ça n'entache pas le croyant devant Dieu. Mais en fait, j'entends de Dieu dans l'Église, mais aussi de façon personnelle et dans mon épreuve aussi. vie, lorsqu'il n'y a plus personne autour de moi, que je suis tout seul à affronter la situation, la préparation qui dépend uniquement de ma propre volonté. Ça dépend de nous d'être préparés et de recevoir la préparation que Dieu veut pour nous. Et nous sommes dans un tel ministère que nous n'avons aucune excuse de dire « Ah non, je ne suis pas préparé ». Merci Seigneur pour cette pensée et on prie cela au nom de Jésus. Amen. Donc, pasteur Morrison, on va faire un petit rap à propos de ce que tu viens de dire. Vous ne trouvez pas que c'est un excellent message? Donc, je pense que le Saint-Esprit est en train d'avoir un ministère auprès de nous, n'est-ce pas? Au travers de pasteur Yuha, pasteur Brian Coelho, j'en suis sûr, sur ce thème, d'avoir un cœur préparé, un cœur qui forme des projets, et la façon dont Dieu répond. On va y réfléchir un peu, on va y revenir là. Où se trouve-t-il, on trouve-t-on dans la Bible la réponse qui vient de l'Éternel? Les réponses qui viennent de Dieu. Est-ce que je peux vous poser une question? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de parler à quelqu'un et vous savez ce que vous voulez leur dire? Mais vous mettez ça de côté, vous priez et vous demandez à Dieu de vous donner les paroles à dire. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Je vais répéter cela. Merci parce que tu es à côté de moi. Je t'assure, je vais te laisser le micro à un moment. Tu vas parler. On vous dit, Seigneur, Dieu prépare notre cœur dans l'Église, dans notre vie, dans les épreuves, et nous donnons une réponse. Et quelquefois, la réponse n'est pas toujours ce que l'on attend. Pilate a dit à Christ, « Quelle est la vérité ? C'est quoi la vérité ? » N'est-ce pas ? Mais il n'y avait pas vraiment une réponse là. Christ avait la réponse et il était la réponse. Nathan avec David, il ne lui a pas simplement donné une réponse, il lui a raconté une parabole. Il y a une façon dont Dieu s'est adressé à David par cette parabole de la brebis. Quand on évangélise, et dans les épreuves, disons que vous avez une épreuve, quelqu'un ne peut pas payer son loyer, c'est un problème. On ne peut pas payer son loyer et vous êtes sur le point d'être jeté hors de chez vous et toutes les issues semblent bouchées, vous n'avez aucune réponse. Qu'est-ce que vous allez faire dans la situation? Je pense que nous devons apprendre à prier, à s'attendre à Dieu. En Ésaïe 40, verset 21, nous attendre à Dieu, à lui faire confiance, parce que notre temps n'est pas toujours le temps de Dieu. Dieu a une réponse, c'est sûr. La réponse vient de l'Éternel. Lorsque Moïse a parlé à Pharaon, et Pharaon parlait à Moïse, et le Seigneur a utilisé Moïse pour qu'il parle, et il avait une réponse. Et cette réponse venait de Dieu. Et peut-être que ce n'était pas ce que voulait entendre Pharaon, mais ça venait de Dieu pourtant. Dans mes crises, dans mes moments de crise, par exemple, j'aimerais avoir l'argent pour payer mon loyer, mais si je n'ai pas ça, eh bien je ne l'ai pas. Alors qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais si je n'ai pas l'argent? Est-ce que Dieu ne peut pas préparer mon cœur à croire, à adorer et à anticiper Et Dieu peut me donner une réponse. Je pense que je peux parler à mon propriétaire, ça peut arriver. La réponse peut venir de Dieu. Et je peux trouver une solution. J'en sais rien. Et simplement, je pense à haute voix, je réfléchis à haute voix. Je me souviens, lorsque nous sommes allés en Finlande, on était dans une maison qu'on louait. Et c'était un 1600 marques qui représentait environ 400 dollars. Et ça, c'était un bon prix. Après quelques mois, on n'avait plus d'argent. Et la fille qui gérait mes finances m'a dit, oh, tu n'as pas de... on a commencé à perdre du poids, on priait pour notre nourriture. Et vraiment, financièrement, ça a été très, très dur. Et puis Lisa m'a dit, on peut peut-être parler au propriétaire, on ne peut pas se permettre de payer. On est allé le voir. Et je lui ai dit, on ne peut plus payer le loyer. Et puis il m'a répondu, mais vous pouvez donner combien? On peut payer 1200. Et il m'a dit, ok, on va faire ça. Et on rentre à la maison, on se dit, waouh, c'est incroyable. Et un mois plus tard, on y est retourné. Et j'ai donné 850 et ça marchait. C'est incroyable. Ce que je veux dire, c'est que la réponse vient de l'Éternel. Elle n'est pas souvent prévisible. La réponse, on ne peut pas s'attendre aux situations, aux réponses. C'est une vie que l'on mène par la foi et on écoute à Dieu. On écoute Dieu. Comment est-ce qu'on nourrit un tel peuple avec 5 pains et 2 poissons? Amenez-les-moi. Ils lui ont amené les pains, il les a bénis, et c'était la réponse. Nos seules réponses aux problèmes qui sont prévisibles, la façon dont nous voulons répondre aux problèmes, ce sont les seules choses prévisibles. Ça ne doit pas être toujours à notre façon, mais la réponse de la bouche peut être quelque chose qui sort de l'ordinaire et qui vient de Dieu. Et lorsque nous parlons, ça peut être comme ça. Ça peut se passer. Qu'est-ce que tu en penses, Pasteur Mauricine? C'est ce que David a dit. À l'âge de 17 ans, il arrive. Il a la réponse. En disant, y a-t-il personne pour fermer la bouche de Goliath? Il était en dehors. Il était en dehors de la logique naturelle et raisonnable. Et avoir une mission mondiale, on a la réponse de la bouche de l'homme. On ne peut pas faire ça. Il faut qu'on fasse attention d'abord dans notre pays. Il faut faire ceci, cela, cela, cela. Bien sûr, on a nos propres problèmes. Ça peut être une réponse possible et très prévisible. Mais j'aime pas cette réponse. Parce qu'en Actes 1:8, la façon dont je comprends, c'est Judée, Jérusalem, Samarie et les confins du monde. Et peut-être, ce que nous recherchons, c'est ce que Dieu dit et c'est ce que Dieu fait. Et nous vivons avec la pensée de Dieu. Et lorsque nous recevons de Dieu, c'est comme des pommes en or avec des poinçons d'argent. On va penser à ce proverbe. Des pommes ciselées d'or et d'argent. Des pommes, ça parle du fruit de la divinité et la rédemption, c'est l'argent. Lorsque vous pensez à la façon dont la réponse est venue, quelle était la réponse? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors vous pensez que ça vient de Dieu qui porte du fruit et qui est dans le contexte de la rédemption, en disant, mais moi je ne l'ai pas fait, mais c'est Dieu qui l'a fait. C'était que la parole de Dieu qui était là pour ce moment et cette situation-là. Et aussi, est-ce qu'on peut dire, parler de la prière. Tu as parlé de l'institut biblique, l'assemblée locale et la prière. Est-ce que tu veux faire un commentaire sur la prière? Je pense que la différence, c'est est-ce que la prière est personnelle ou pas? Et la réponse, c'est très souvent, nous gravitons autour de solutions très impersonnelles, alors que la prière, c'est tout, sauf quelque chose d'impersonnel. C'est moi et Dieu. Il n'y a rien de plus personnel que la prière. Et tout doit être mis dans ce contexte-là. Ça doit faire partie de la réponse. Si je ne suis pas dans la prière, ok, mais bon, fais ce que tu veux. Ça, c'est Dieu qui s'adresse à nous. Mais tu ne t'es jamais approché de moi dans ce domaine-là, donc je te laisse. Il y a des fois, Dieu nous laisse répondre tout seul. Et quelquefois, on se dit, ah oui, au fait, Dieu bénit ça. Après avoir décidé de quelle serait la bonne réponse. L'illustration que tu as donnée, quelqu'un qui veut avoir une petite amie et qui lui offre de l'argent pour qu'elle devienne sa petite amie. Bien sûr, ce n'est pas une recommandation que tu fais au jeune homme célibataire. Ce gars n'a pas le cœur pour avoir une femme, pour aimer cette femme. Il veut juste acheter son amitié, son amour. Et la question, c'est est-ce qu'on a un cœur pour Dieu ou non? Et durant ces tests surprises, on voit où en est notre cœur avec Dieu. Et c'est comme si c'était un petit réveil, une petite secousse électrique pour nous réveiller. On n'a pas de réponse souvent. Dans des messages, dans la prière, dans les messages, on parlait dernièrement sur la façon dont, dans la prière, on peut aller à une réunion prière. Et c'est ce que je veux, moi. Il peut y avoir une réunion de prière. Merci Seigneur de bénir mon église. Aide-nous. Mes finances, ma famille, mon affaire, mes amis, mon travail et tout ça. Et bien sûr que ces prières ont de la valeur, elles sont belles. Mais il y a aussi un autre type de prière où on se tient tranquille et on écoute ce que Dieu nous dit. Et ça peut être entièrement en dehors de la forme que nous mettons sur la prière. La prière, ça peut être juste d'être une tranquillité devant Dieu et de l'adorer pour ce qu'il est et de le magnifier en tant que Dieu. Ça peut être une heure de silence, une réponse à Dieu qui est un Dieu tout-puissant. On pense au cosmos, à l'océan, à la nature, aux montagnes, à l'appel d'un croyant. Et de faire confiance que le Saint-Esprit va vous donner la prière. Et ce n'est pas moi qui prie ma vie, mon désir, ma volonté, mais simplement la volonté de Dieu, le cœur de Dieu, la prière de Dieu et ce que Dieu fait. Et c'est possible que ce soit très rafraîchissant dans notre vie de prière, que l'une des choses qui arrive dans la vie de prière, c'est que nous ressentions que nous sommes complètement dans la volonté de Dieu et dans ce que Dieu est en train de faire. Et la réponse qui vient de la bouche, vous pouvez être complètement surpris par les propres paroles que votre bouche peut proférer. et qui sont tellement extraordinaires. Je crois que la plaie de notre christianisme prévisible, c'est quand on, la façon dont on parle, la façon dont nous agissons, la façon dont nous posons les questions. Et en fait, c'est simplement une ritournelle, un rituel, et c'est mort. On joue notre rôle chrétien. Mais il y a une fraîcheur. Et même lorsqu'on évangélise, lorsque nous vivons une vie par la foi et qu'on demande à Dieu de faire les choses et de nous aider à nous guider, je peux être. Il y a un proverbe qui dit ça, qu'une bouche est, notre bouche est un arbre de vie et que le fruit de notre lèvre est un arbre de vie, quelque chose qui rafraîchit sur les réponses de notre langue, quelque chose qui sort de l'ordinaire. J'étais dans un avion une fois et j'ai vu un juif avec sa, qui lisait la Torah avec sa longue barbe. C'est un homme d'âge vénérable. Et j'ai vraiment, ça m'intéressait ce qu'il est en train de lire. Et je lui ai posé la question. Je suis allée le voir. Je l'ai rejoint à côté de lui. Et il me dit, je lis une Bible en hébreu. Et je lui ai dit, mais est-ce que tu peux m'en parler un peu? Il m'en a parlé. Et j'étais très impressionnée. Je l'ai encouragé, je l'ai complimenté. Et il ne savait pas encore que j'étais un chrétien. Il était très ouvert et très désireux de partager. Il m'a dit, je suis... Après un moment, quand il s'est senti à l'aise avec moi, il m'a dit, je fais partie de la race de David. Ta famille remonte au roi David? Il me fait oui. Et je dis, c'est extraordinaire. Parce que ce que je sais, et j'ai commencé à parler de ce que je savais de David, je dis, est-ce que tu savais que Jésus, que les chrétiens, celui qui vient de la racine de David, il fait non, je ne savais pas ça. Il fait si oui. C'était la promesse messianique que de la semence de David, il y aurait le Messie. Et je l'ai juste laissé avec ça. Mais j'ai été rafraîchi avec ma propre réponse et j'étais surpris en disant « Waouh !» J'ai dit ça « Waouh !» J'ai dit un truc incroyable. Ce que j'aimerais pouvoir dire, c'est que le pasteur Morrison, son message ce matin, pour nous aussi, l'une des plaies de notre vie, d'être tellement, tellement familier, d'apprendre un rôle religieux, nous disons les choses, on agit, on prie, on parle de façon religieuse, mais je sais dans mon cœur, et que c'est le cas pour nous, si nous trouvons la présence rafraîchissante de Dieu dans la prière, on peut devenir... C'est comme une addiction, en fait. Parce que c'est tellement... Ça change tout. Et d'apprendre dans notre cœur d'avoir une vie de dévotion devant Dieu qui nous garde de façon tellement fraîche dans des décisions quotidienne, dans nos conversations, dans les temps de crise, là où il n'y a plus personne qui a une réponse, et de dire, croyons Dieu, je crois que Dieu va m'aider à payer mon loyer, je crois vraiment ça, je crois que Dieu va m'aider avec mes enfants, mais on ne va pas commencer là. On va revenir en arrière, on va aller considérer la nature de Dieu, on va être des adorateurs. Parce que la réponse ne viendra pas de façon prévisible comme on s'y attend religieusement. La réponse peut devenir de façon très très loin. Dieu lui a montré à Moïse comment avoir de l'eau fraîche, mais avec la verge. Nous avons besoin d'aide très souvent. Apprenons à avoir une relation avec Dieu de façon fraîche et de venir devant lui et littéralement d'avoir une attitude de cœur qui nous surprenne. Et laissons-le nous surprendre et regardons l'arche qui va construire. Je ne vais pas déménager pour avoir un autre boulot. Dieu veut qu'on soit tranquille un an ou deux et à propos de certaines choses et de penser, et il va nous répondre, mais soyons, on va regarder à Dieu, on va écouter Dieu, on va marcher avec Dieu et on sera rafraîchi. On aura une réponse. La réponse, la joie viendra dans la réponse. Une chose pour la joie, c'est qu'elle, bien sûr, c'est un privilège. Bien sûr, on aime les blagues parce qu'on ne s'attend pas à la réponse et ça nous surprend. Et Dieu fait ça. Quelque chose qui va au-delà de nous-mêmes. C'est une joie. Amen. Amen. Ok. Les parents, vous pouvez être sur les starting blocks et aller chercher vos enfants. Ce serait vraiment très grandement apprécié. S'il vous plaît, allez rechercher vos enfants. Vous allez vous lever, s'il vous plaît. Seigneur, merci d'être avec nous. On vous aime vraiment beaucoup. Et vos enfants aussi, on priait pour les gens qui s'en occupent, parce que vous savez comment ça peut être quand les enfants sont fatigués. On va avoir un grand après-midi, on va avoir le lunch wrap et une session ici dans l'après-midi, et notre culte ce soir. Et ce soir le culte, amenez vos amis, arrêtez quelqu'un sur la 95 et amenez-le. Merci Seigneur pour ce temps que nous avons et toutes ces paroles que nous avons entendues. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.